Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightnartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié sous le pseudonyme de Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror est le grand texte d'Isidore Ducasse, composé entre 1868 et 1869. Cette édition réunit les six chants et d'autres textes, notamment les poésies, écrites peu avant la mort de l'auteur en 1870. Maldoror ne se laisse pas réduire à un roman ordinaire, c'est une épopée en prose, fragmentée, lyrique et provocatrice, dont le personnage central incarne une révolte extrême contre Dieu, l'humanité et les normes morales. Les scènes de cruauté, les métamorphoses, les adresses au lecteur et les brusques changements de ton nid comptent autant que toute action suivie. Ducasse y fait de la langue un espace d'excès, de parodie et de confrontation avec les formes littéraires héritées, longtemps confidentielles. L'œuvre fut redécouverte au début du XXe siècle par les surréalistes, qui y reconnurent un antécédent majeur de leur liberté d'image et de leur refus du conformisme. Elle demeure une lecture exigeante, radicale et historiquement décisive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Maldoror comme figure instable du mal et de la révolte, Maldoror n'est pas un personnage psychologiquement cohérent au sens réaliste. Il apparaît tantôt comme individu, tantôt comme une force hostile à toute mesure humaine et parfois comme une voix difficile à distinguer de celle du narrateur. Cette instabilité est essentielle, le mal n'y reçoit ni explication sociale simple ni justification morale. Il est mis en scène comme une puissance de négation dirigée contre les hommes, contre le Créateur et contre les conventions qui organisent le monde. La misanthropie et le refus de Dieu ne constituent donc pas seulement des thèmes scandaleux pour leur époque. Ils servent à éprouver les limites des discours moraux, religieux et littéraires. Lautréamont pousse la violence jusqu'à l'invraisemblable afin de défaire les réflexes de compassion, d'ordre et de sens que le lecteur attend habituellement d'un récit. Il serait pourtant réducteur de lire le livre comme une simple apologie du crime ou de la cruauté. L'outrance produit aussi une distance ironique et grotesque. Maldoror concentre des contradictions, il méprise l'humanité, mais lui reste lié, il cherche une souveraineté absolue tout en révélant la fragilité de toute identité stable. La révolte devient ainsi une expérience verbale, où l'excès montre à la fois le désir de rompre avec le monde et l'impossibilité d'en sortir réellement. Deuxièmement, une composition en six chants qui refuse le récit linéaire, Les Chants de Maldoror ne proposent pas une intrigue continue avec une progression claire. Les cinq premiers chants sont formés de strophes ou séquences très diverses, reliées moins par une chronologie que par le retour de motifs, de voix et d'intensité. Des scènes narratives, des invectives, des méditations, des descriptions animales ou scientifiques et des interventions directes au lecteur s'y succèdent sans chercher à constituer un univers stable. Cette discontinuité oblige à modifier sa manière de lire. Chercher un résumé exhaustif ou une psychologie constante conduit souvent à manquer le mouvement réel du texte, fondé sur l'association, la rupture et la reprise déformée. Le sixième chant tranche nettement avec cet ensemble, il adopte une organisation plus proche du petit roman et rend plus visible le jeu de Lautréamont avec les codes narratifs. Cette différence ne rétablit pas pour autant un réalisme tranquille. Elle démontre plutôt que l'auteur maîtrise les formes qu'il semble avoir précédemment désorganisées. La structure fragmentaire a une conséquence critique précise, elle déjoue l'attente, selon laquelle une œuvre doit conduire le lecteur vers une leçon unifiée. Chaque séquence impose sa logique provisoire, puis la contredit ou la déplace. L'unité du livre réside donc dans la persistance d'une voie d'affrontement et dans la capacité de la prose à transformer sans cesse ses propres règles. Troisièmement, la prose de l'excès entre lyrisme, précision savante et grotesque, la singularité durable de Lautréamont tient largement à sa prose. Elle associe de longues périodes lyriques à un vocabulaire précis emprunté, selon les passages, aux sciences naturelles, à la médecine, à la zoologie ou aux mathématiques. Cette précision ne cherche pas principalement à produire un savoir objectif. Elle rend les visions plus matérielles, plus dérangeantes, et crée un décalage entre l'apparence savante du discours et la démesure des situations décrites. Le bestiaire, les corps transformés, les proportions monstrueuses et les images de décomposition participent à une esthétique où le sublime se mêle au répugnant et au comique. Les comparaisons inattendues ne sont pas de simples ornements. Elles brisent les hiérarchies ordinaires entre le noble et le trivial, l'humain et l'animal, le sérieux et le ridicule. Le texte se nourrit également de parodies, il emprunte les accents de l'épopée, du romantisme noir, du sermon ou du roman populaire, tout en les poussant jusqu'au dérèglement. Cette pluralité de registres explique pourquoi les chants peuvent donner une impression de saturation. Mais elle explique aussi leur force, le lecteur ne peut s'installer dans un ton unique ni dans une interprétation rassurante. La beauté des phrases demeure inséparable de leur pouvoir de déstabilisation. Chez Lautréamont, le langage ne décrit pas un chaos extérieur. Il produit activement un monde instable, excessif et sans proportion humaine fixe. Quatrièmement, le lecteur pris à partie est rendu responsable de son interprétation. Dès son ouverture, les chants de Maldoror mettent en scène l'acte de lire comme une épreuve. Le narrateur interpelle fréquemment son destinataire, le prévient, le provoque, le rabaisse ou semble solliciter sa complicité. Cette présence du lecteur dans le texte a une fonction plus complexe qu'un simple effet de provocation. Elle rappelle continuellement que les violences représentées sont aussi des violences de langage reçues et reconstruites par celui qui lit. L'Otréamon empêche ainsi une consommation passive du spectacle de l'horreur. Le lecteur est poussé à s'interroger sur son désir de poursuivre, sur son attente de cohérence et sur le plaisir esthétique qu'il peut éprouver devant ce qui le choque. Les changements de personne, les intrusions de la voix narrative et les commentaires sur l'écriture rendent également visible la fabrication de la fiction. Le livre ne laisse jamais oublier qu'il est un texte, avec ses artifices, ses pièges et ses effets de scène. Cette réflexivité annonce une part importante de la modernité littéraire, l'œuvre ne se contente pas de raconter. Elle examine ses propres moyens et conteste les habitudes de lecture. L'expérience peut être déroutante, car aucune autorité stable ne fournit une clé définitive. C'est précisément cette absence de garantie qui donne au lecteur un rôle actif. Il doit distinguer, sans les séparer artificiellement, la fureur, l'humour noir, la parodie et la virtuosité formelle. En dernier lieu, des chants aux poésies. Une critique radicale de la littérature, la présence des poésies dans cette édition est décisive pour comprendre l'ensemble de l'œuvre de Ducasse. Après les visions furieuses et les négations des chants, ces textes en prose prennent la forme de maximes, d'affirmations et de réflexions sur la morale et la littérature. Le contraste est frappant, mais il ne faut pas l'interpréter comme une conversion simple à une écriture sage. Les poésies poursuivent autrement la lutte contre les automatismes du langage et contre certaines postures de l'écrivain. Elles mettent en cause le culte du désespoir, les formules consacrées et l'idée que la grandeur poétique dépendrait nécessairement de la souffrance ou de la transgression. Leur procédé de réécriture et de retournement de formules antérieures manifeste une conception active de la création écrire, revient aussi à déplacer des discours déjà existants, à examiner leur autorité et à modifier leur sens. Les chants et les poésies dessinent donc deux faces d'une même exigence. Les premiers font exploser les conventions par l'excès, l'hétérogène et l'horreur. Les secondes cherchent une forme de rigueur critique sans renoncer à la polémique ni à l'ironie. Cette tension interdit de réduire l'Otréamon à une icône du seul scandale. Son œuvre interroge aussi la responsabilité de la parole littéraire. Les effets de la citation et la possibilité de produire une poésie qui ne reproduise pas mécaniquement les valeurs reçues. En conclusion, les chants de Maldoror et autres textes s'adressent surtout aux lecteurs prêts à aborder une œuvre sans intrigue stable, sans morale rassurante et sans confort stylistique. Les amateurs de poésie en prose, de romantisme noir, de littérature expérimentale et d'histoire du surréalisme y trouveront un texte fondateur. Les étudiants et lecteurs désireux de comprendre les ruptures de la modernité littéraire peuvent également en tirer un bénéfice précis. Le livre montre comment une voix, une structure et des images peuvent contester les conventions d'une époque sans se limiter à énoncer une thèse. Une lecture lente, éventuellement accompagnée de notes, convient mieux que la recherche d'un récit fluide. L'ouvrage peut dérouter par ses scènes violentes, son vocabulaire abondant et ses brusques bifurcations. Il est donc moins indiqué à qui cherche un roman psychologique ou une lecture apaisante. Ce qui le distingue des récits gothiques et des littératures de la révolte plus conventionnelle est la place centrale accordée au travail de la langue. L'Otréamon ne fait pas seulement de Maldoror un héros du refus, il transforme l'écriture elle-même en terrain de métamorphose, de parodie et d'affrontement avec le lecteur. L'ajout des poésies empêche enfin de figer l'auteur dans l'image d'un provocateur. Il révèle une réflexion aiguë sur les usages littéraires, la reprise des textes et la nécessité de renouveler les formes. C'est cette alliance de violence imaginaire, de lucidité critique et d'invention verbale qui explique l'influence durable du livre. Si vous souhaitez soutenir Conte de l'Otréamon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.